serais content de ne plus avoir longtemps. J'ai l'impression que tout le temps, je suis en train de remonter ici. La dernière question de tout à l'heure est un exemple très concret qui va me permettre de nouer la gerbe de beaucoup des choses que nous avons dites aujourd'hui. Je vous la lis telle qu'elle est posée là sur ce papier. Répondre par l'espérance ne m'aide pas tellement quand quelqu'un me demande, en tant que chrétien, tu condamnes l'avortement ? Peux-tu clarifier en quoi l'assurance de la vie éternelle facilite le dialogue ? Alors, l'espérance chrétienne est beaucoup plus que l'assurance de la vie éternelle. Je ne suis pas chrétien parce qu'on m'a promis que j'échapperai aux enfers le jour de ma mort. Je suis chrétien parce que Jésus est là avec moi aujourd'hui. Si Jésus n'était pas là avec moi aujourd'hui, je ne serais pas chrétien. Ou je serais un chrétien craintif. Comme un âne à qui on a mis sa carotte devant pour le faire avancer. J'avancerai vers la délivrance de l'enfer avec cette idée que si je suis suffisamment bon et gentil, peut-être que j'en échapperai. Je suis chrétien, non, parce que Jésus est là aujourd'hui, il vit avec moi. Je le rencontre régulièrement, pas aussi souvent qu'il aimerait, pas aussi souvent que je devrais. Lorsque je parle des pratiques de la piété chrétienne, moi je suis un grand amateur de café, n'est-ce pas Geneviève? Je commence toujours ma journée avec du café. Parfois je ne déjeune pas, mais je prends mon café. Donc la première chose que je fais, moi je lis jamais ma Bible avant d'avoir mon café. Les priorités sont les priorités. Le Seigneur ne me voudrait pas sans mon café du matin. Mais je tâche de prendre mon café avec le Seigneur. Et j'ai parlé de ça, j'étais l'intervenant du rassemblement de la jeunesse des églises évangéliques arméniennes en 99 ou 2000, je ne me souviens plus, il y a longtemps. Et tout récemment, là, quelqu'un m'a dit, ah oui, tu es celui qui nous a parlé de prendre son café du matin avec le Seigneur. J'aime bien laisser ce genre d'héritage. C'est pour ça que je prends mon café avec le Seigneur presque tous les matins. Parce que c'est Jésus et sa présence dans ma vie qui m'aident à rester chrétien. Sinon, il y a longtemps que j'aurais renoncé. Tout ça, je le dis parce que il y a tellement de souffrances potentielles dans cette question. Et je dirais là, aucune réponse que moi je peux donner ne va soulager cette souffrance. Si cette question provient d'une souffrance personnelle, il n'y a aucune réponse que moi je peux donner ici aujourd'hui qui va la soulager. Je ne peux que vous ramener vers celui qui a soulagé certaines de mes souffrances, qui est Jésus-Christ. Il y a quelques années de ça, à la suite, pendant un camp, il y avait un jeune, allez, comment le défaire ? Un peu marrant, un peu bout en train, celui qui a fait rigoler tout le monde, celui qui allume les phares des jeunes filles lorsqu'il entre dans la pièce, qui me dit, écoute, j'ai un truc à discuter avec toi, mais c'est vraiment privé. Alors, j'ai un peu l'habitude. Je savais aussi qu'il aimait bien, c'était lui qui faisait la fête jusqu'à pas d'heure et le lendemain avait arrivé toujours en retard pour la réunion de prière du matin. Alors je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que toi et moi, demain matin, 5h. Je voulais être convaincu qu'il voulait vraiment un entretien avec moi. Moi, je vais me lever à 5h, de toute façon, je trouverai toujours à faire. Si jamais il ne se pointe pas, je n'aurais pas perdu mon temps. Mais lui, ça lui donne le choix de réfléchir à ce qu'il veut vraiment cet entretien avec moi.
Avec un café.
Avec un café, avant le café. Je suis passé par le café avant. Hein. Parce que je sais pas. Et donc, 5h02, il était au rendez-vous. Dans la nuit noire, on est allé, j'ai pris ma voiture.
Je dis, écoute, on va aller à un endroit parce que j'ai l'impression que ce dont tu vas me parler, tu vas vouloir t'en souvenir. Je dis, alors on est allé à une pointe qui s'avance dans la mer. Et on a regardé ensemble le lever du soleil. Et on avait froid. Et la mer était autour de nous. Et puis il faisait quand même beau ce jour-là, on a eu la chance d'un peu de soleil se lever. Et on a parlé. On a parlé du fait que 3-4 ans avant, il avait. Sa copine s'est trouvée enceinte et il avait fait pression sur elle pour qu'elle avorte. Et elle avait avorté. Et que maintenant, il cherchait à remettre sa vie en règle avec le Seigneur et qu'il avait demandé le baptême. Et qu'il portait en lui ce souvenir de l'avortement dont, en tant qu'homme, il se sentait aussi responsable, notamment qu'il avait fait pression pour que sa copine avorte. Et il avait dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'étais content de l'approche que j'avais prise. Parce que, effectivement, on a parlé pendant 2 heures, on a prié. Je lui ai suggéré des pistes de prière qu'il a prié après moi. Je lui ai pas dicté sa prière, mais je lui ai suggéré des pistes, ce qu'il a fait. C'était une pointe, comme en beaucoup de pointes en Bretagne, où il y a une grande croix en granit au bout. On est allé à la croix en granit. On a parlé de ce qu'il avait, ce dont il voulait être soulagé. Et 2 ans plus tard, lorsqu'il a été baptisé, il a parlé de cet événement comme ayant été un événement déterminant, où il avait compris que son enfant non-né, si pour Dieu cet enfant était un être humain, ben cet enfant il le retrouverait un jour, et que c'est le genre de questions et de complications éthiques qu'il pouvait laisser entre les mains de Dieu, et que lui est reparti de ce promontoire pardonné, restauré et ouvert sur la vie que le Seigneur lui demandait de vivre, capable de dire je suis un pécheur pardonné. Et c'est quelqu'un, c'était l'approche la plus proche approche que j'ai jamais eue de la question de l'avortement. À part une vieille dame qui a avorté 3 fois, que j'ai connue il y a des années de ça, et que je n'ai pas su soulager, que je n'ai pas su aider, parce qu'elle était pétrie de sa culpabilité. La question de l'avortement est une question dont je me garde de parler trop, parce que je trouve que je préfère que ce soit mes sœurs qui en parle plutôt que moi en tant que mec. Vous, dans les églises mennonites, vous avez une chance, vous avez beaucoup de figures pastorales féminines. Vous avez quelques-unes. Allez. Vous en avez beaucoup plus que beaucoup d'autres familles ecclésiales, on va dire. Voilà, là c'est la pure vérité, ce que je suis en train de dire. Et que dans des églises où la parole pastorale est toujours médiée, toujours transmise par des hommes, évoquer la question de l'avortement est très délicat, compliqué, difficile. Mais les chrétiens, supposer d'emblée que les chrétiens condamnent l'avortement est un raccourci. Non pas que ce soit forcément faux, mais il y a tellement d'autres choses à faire lorsqu'on est confronté à un avortement éventuel que condamné. Je me souviens toujours d'avoir lu le récit de chrétiens aux États-Unis qui avaient une clinique qui accueillait des femmes qui réfléchissaient à la possibilité de l'avortement. Et donc c'était des chrétiens qui étaient là pour leur offrir une autre solution. Une solution qui impliquait soit la responsabilisation de la maman et la mise en relation avec des familles pour les accompagner, soit, si la mère le souhaitait, de donner naissance à son enfant et ensuite de le faire adopter. Et ils avaient été assaillis par des militants pro-avortement qui faisaient des manifestations devant la clinique, en train d'essayer d'empêcher les femmes de rentrer, un peu ce que beaucoup de chrétiens ont fait devant des cliniques d'avortement. mais dans l'autre sens. Et un jour, il y a eu, ça a gonflé, il y a eu tout un esclandre, la presse était là, tout le monde était en train de filmer, il y avait des insultes qui fusaient. Et quelques chrétiens à l'intérieur priaient que le Seigneur trouve une solution à cette situation. Il y avait la presse locale qui était là avec les caméras et tout. Et donc, ils ont décongelé des donuts, et ils ont fait chauffer du café, ils sont allés apporter des donuts et des cafés à toutes ces personnes qui manifestaient dehors. Et ça s'est terminé autour d'une tasse de café. Moi, j'aime beaucoup les histoires qui se terminent autour d'une tasse de café. Vous avez oublié tout ce que je vais dire par ailleurs, vous allez souvenir, j'étais celui qui parlait de boire du café tout le temps. Il y a tellement d'autres choses à faire lorsqu'on est confronté à toutes sortes de dilemmes éthiques que simplement condamner. Si seulement les églises n'étaient pas connues comme ceux qui condamnent l'avortement, mais étaient connus comme ceux qui aident les mamans qui ont du mal à porter un enfant. Si seulement on n'était pas connus comme ceux qui condamnent l'homosexualité, mais comme l'ami des homosexuels. Moi, je dis parfois que si... On me demande souvent, et le jour où un procès, où les lobbies homosexuels font un procès à un pasteur pour avoir parlé de la vérité biblique sur l'homosexualité, moi, j'ai le rêve que beaucoup d'homosexuels vont dire « On n'est pas d'accord avec eux, mais ils ne sont pas homophobes. » C'est le pasteur qui a fait les obsèques de mon compagnon qui est mort du sida. Quand mon patron a voulu me virer parce qu'il a découvert que j'étais homosexuel, c'est ce chrétien qui m'a défendu au prud'homme. Parce que c'est là que devrait être notre place. Si les chrétiens sont engagés sur le terrain comme ils devraient l'être, le jour J, il y aura des homosexuels qui viendront dire non, ils ne sont pas homophobes. On n'aime pas trop plein de choses qu'ils disent, mais ce sont nos amis. On a pris des cafés ensemble, on a mangé ensemble, on a lutté ensemble, on a pleuré ensemble. Ça, c'est l'engagement de l'Église auprès des malades, auprès des personnes, auprès des pécheurs, tout simplement, quels qu'ils soient. Alors, l'avortement. Si seulement c'était pas en tant que chrétien, tu condamnes l'avortement. L'espérance chrétienne, c'est ce qui nous donne, c'est pas juste une espérance en éternité, c'est une espérance qui prend racine, qui commence ici aujourd'hui avec Jésus. Et donc cette espérance, cette foi exprimée comme une espérance, c'est ce qui me permet d'être là auprès de quelqu'un qui envisage l'avortement, en train de pleurer avec elle. Peut-être en train de lui dire, parce que l'avortement a déjà eu lieu, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment tu vas vivre ça? C'est l'espérance chrétienne qui me permet de ne pas rejeter la personne qui a déjà choisi d'avorter et qui a déjà procédé à l'acte. C'est dans cela que l'assurance de la vie éternelle facilite le dialogue, parce que je n'ai pas besoin de convaincre l'autre personne de voir des choses comme moi pour être bien avec elle. J'aimerais vous raconter une histoire pour terminer, mais j'aimerais d'abord lire un texte de la Bible pour introduire mon histoire. Il s'agit, si vous voulez suivre avec moi, dans l'évangile de Luc. Luc 18, verset 31. Luc 18, verset 31, le contexte, c'est que les disciples et Jésus sont en train de monter vers Jérusalem. Et Jésus commence de plus en plus souvent à parler de choses qui les dérangent, les disciples. Il parle du fait qu'il va être arrêté, qu'il va mourir. Et ça, les disciples, ça ne leur convient pas du tout. Et Jésus, il nous dit le verset 31 de Luc 18, « Jésus prit les 12 à part et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis aux mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu un coup de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. Nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons ce que Jésus a fait pour Bartimée, l'aveugle. Nous connaissons aussi la suite de l'histoire. Nous savons que la cécité des disciples a été levé, pensons surtout au chemin d'Emmaüs, lorsqu'au bout du chemin ils ont vu des trous dans ses mains et qu'ils ont reconnu le Sauveur. Mais ce que j'ai voulu dire là, et la raison pour laquelle j'ai lu le verset 35, c'est que nous sommes tous quelque part aveugles. Luc était un écrivain extraordinaire. Et sa façon de juxtaposer cette incompréhension, cette cécité spirituelle des disciples au verset 34, avec la rencontre de l'aveugle en train de mendier sur le chemin au verset 35, est absolument voulu et intentionnel. Je n'en doute pas. Nous sommes un peu comme les disciples. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si vous avez l'impression, en arrivant à la fin de cette journée passée ensemble, j'espère que vous n'avez pas l'impression que j'ai toutes les réponses. Parce que pétasse, il y en a beaucoup que je n'ai pas. Combien de questions j'ai encore à poser à Jésus, à l'apôtre Paul, à ceux qui sont venus avant moi, et pourquoi, et comment, et n'aurais-tu pas pu, s'il te plaît, comme les disciples. Je me retrouve tellement dans ces disciples. Vous avez noté ce que Luc dit au verset 34. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. C'est comme s'il répète, vous avez vu, hein, il répète trois fois exactement la même chose. Si vous me posez la question, une question avec moi, je vous réponds rien, niet, nada, no signator. J'enfonce plusieurs fois le même clou. C'est ce que Luc est en train de faire. Les disciples n'ont rien compris. Ils étaient aveuglés. Le langage de Jésus leur était incompréhensible. Tellement de choses étaient incompréhensibles aux disciples. Mais Jésus les laissait dans leur incompréhension parfois, en leur disant quoi ? D'abord en leur montrant un aveugle à qui il allait rendre la vue. En leur promettant cette résurrection, après l'avoir battu de fouet, on le mettra à mort. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Verset 33. Jésus pouvait demander à ses disciples d'attendre, de vivre avec cette incompréhension que Luc nous assène dans ce texte, parce qu'il était le capitaine d'une équipe. Et que, en tant que joueur, en tant qu'équipier, les disciples n'avaient pas forcément tous les éléments pour tout comprendre. Je me souviens un jour, quand j'étais responsable, quand j'étais animateur d'école le dimanche, c'était à l'église libre d'Avignon. Et la pièce des grands-enfants de l'école du dimanche avait une table de baby-foot. Et donc, lorsque le prédicateur prêchait un peu trop longtemps, et que l'école du dimanche avait terminé avant la fin du culte, ça arrive, et il arrivait que les autres classes gravitent vers cette salle-là pour jouer au baby-foot. Et ce jour-là, il y avait trois garçons qui jouaient au baby-foot. Deux petits et un grand. Et les deux petits étaient contre le grand. Alors, vous voyez la scène, vous avez deux garçons, deux plus jeunes d'un côté, et l'aîné, troisième en face, comme il était le plus grand, en train de se battre contre les deux autres au baby-foot. Le grand devait avoir 13 ans, on va dire. 12-13 ans. Sur ce, arrive une petite fille que j'appelle Justine. C'est pas son vrai nom, vous en doutez. Justine était venue d'une famille compliquée. Sa maman, alcoolique, avait quitté le foyer familial, vivait dans un squat avec plusieurs hommes. Ils étaient tous SDF. Et à cause de ça, la DAS avait confié Justine à son papa. Le papa de Justine, c'était compliqué, il vivait avec une femme, mais tous les deux, ils venaient de se convertir, ils étaient époustouflés de l'accueil dans l'église locale. Ça a été d'ailleurs tout un cheminement pastoral, comment accueillir ce couple qui vivait une situation conjugale compliquée alors que le mari n'était pas du tout divorcé de sa première épouse, de la maman de Justine. Mais le problème, c'est que la DAS avait confié Justine à son papa parce qu'il vivait en couple. Et donc, si on exigeait pastoralement que ce couple se sépare ou fasse... eh bien, voilà, la DAS allait enlever Justine et la mettre en famille d'accueil. Et cette petite Justine, qui avait 6 ans peut-être, elle adorait l'école du dimanche. Elle adorait l'église. Elle voulait venir à l'église.
C'était un lieu d'accueil, de chaleur, de jeu, de joie, de chant. Tout ce que l'église devrait être pour une petite de 6 ans. Si on avait exigé la séparation de ce couple, Justine aurait été mise en famille d'accueil privée de ses nouveaux amis chrétiens. Quoi faire dans ce genre de... Ça, c'est un dilemme éthique, c'est pour un autre jour. Justine arrive, la petite de 6 ans, devant les grands garçons en train de jouer au baby-foot. Elle se met au bord du baby-foot, au but, et regarde les garçons, les trois grands garçons qui jouent. Et puis les deux plus jeunes remportent la partie. On fait la belle. Sur ce, moi j'étais là en train d'écouter du nord-est du vrai histoire. Sur ce, Justine dit, moi je veux jouer, qui veut jouer dans son équipe? Oui, alors entre-temps, les garçons s'étaient dit, est-ce que les deux mêmes se battent toujours contre le grand, ou est-ce qu'ils mélangent pour qu'un des plus jeunes rejoigne le plus grand? Justine, moi je veux jouer, qui me veut dans son équipe? À 12-13 ans, les garçons, les adolescentes ne sont pas ce qu'il y a de plus sensible à ce genre de... Je n'ai pas voulu m'en mêler, je suis resté là en train de manger sagement mes affaires. Il y a eu un moment d'hésitation, mais le plus grand a dit, moi je te veux, viens, on va les battre. Là, je me suis retourné pour voir qui c'était en train de parler. Vous auriez dû voir le visage de Justine. Vous auriez dû voir son visage s'illuminer. Un grand garçon venait de lui dire, moi je te veux dans mon équipe, viens, on va les battre. Je pense que jamais on avait dit ça à Justine avant, dans sa petite vie malheureuse. J'ai oublié de mentionner que Justine avait, à cause de ses difficultés sociales, elle n'avait pas reçu les soins dentaires qu'elle aurait dû recevoir, et qu'à cause d'une déformation de la mâchoire, son surnom à l'école c'était la Guenon. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'elle avait subi jusqu'alors. Alors s'entendre dire ça par ce grand garçon, c'était pour elle quelque chose de lumineux. Et c'est ce que Jésus nous dit. Et j'aimerais vous quitter avec cette histoire de Justine, non pas parce que c'est une gentille histoire pour terminer la journée, mais c'est parce que j'aimerais que vous repartiez d'ici avec ce rappel pour certains, ou cette découverte pour d'autres au fond du cœur. Jésus nous dit toujours ça. Je te veux dans mon équipe. Je ne sais pas quel a été votre passé, je ne sais pas d'où vous venez, enfin, géographiquement, je pense bien, mais je ne sais pas quelle a été votre histoire. Je ne sais pas ce que vous avez vécu de bien ou de mal avec l'Église, avec la foi, avec Jésus. Constamment, dans tous vos choix, dans toutes vos décisions, n'oubliez pas ça. Comme ce garçon a dit ce jour-là à Justine, Dieu vous regarde et il vous dit, je te veux dans mon équipe. Et ça, c'est une espérance pour notre foi qui nous permet d'affronter tous les lendemains, quels qu'ils soient. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'accueil. Hein? Tu es un Dieu qui veut nous accepter pour collaborer avec nous. Et Seigneur, tellement de fois, lorsque nous nous tournons vers toi, tu nous regardes avec ce regard d'approbation qui nous fait tant de bien. Nous avons besoin, Seigneur, d'être approuvés par toi. Aide-nous à vivre de manière à toujours recevoir ce sourire de ta part. Aide-nous à savoir te faire plaisir. Aide-nous à ne pas voir les défis, les difficultés de la vie chrétienne comme étant des épreuves pour nous prouver que nous sommes à la hauteur. Seigneur, je sais que je ne serai jamais à la hauteur, mais toi, tu l'es en moi. Aide-nous à savoir vivre cette vie qui est la tienne, vécue en nous. Aide-nous à tout simplement nous reposer dans cet amour, cette grâce, de nous savoir aimer, même si nous ne le méritons pas, de nous savoir désirer dans ton équipe. Merci pour la belle équipe que forment mes frères et mes sœurs ici, dans ce lieu aujourd'hui. Merci pour cette belle union d'église. Merci pour leur histoire. Merci pour leur valeur. Merci pour leur témoignage, Seigneur. Que tu continues à construire ton royaume par eux.